franceinter.fr.
À la une de la science, aujourd'hui le synchrotron de Grenoble qui fait peau neuve. Ce petit frère moins connu que le très médiatique et lâché de Genève n'a pourtant absolument rien à lui envier. Lui aussi est en pleine mutation pour des recherches d'ailleurs de plus en plus pointues dans des domaines très appliqués. La seconde partie donc de sa mise à jour vient de commencer. Et pour en parler, on accueille par téléphone en direct depuis Grenoble Francesco Cete. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en physique et directeur général de l'ESFR. Et Paul Taforo, vous êtes paléoanthropologue au sein de l'accélérateur. Bonjour à vous.
Bonjour.
Francesco, on entend peu parler des synchrotrons. Quelle différence justement avec les grands accélérateurs comme le LHC, par exemple, au CERN de Genève?
Alors, par rapport à Genève, on est un peu plus petit. On est à 1 kilomètre de circonférence, à la place des 27 de Genève.
À Grenoble,
donc
vous êtes plus petit,
on ouais. Regarde les constituants fondamentaux de la matière, l'origine de la masse, les quarks, les électrons. Ici, à Grenoble, on a un synchrotron qui est unique au monde pour ses capacités d'investigation des matériaux et du matériel vivant. De la biologie structurale. Qu'est-ce qui est caractéristique du synchrotron? C'est en fait la possibilité de regarder la matière avec une résolution atomique. Mmh. On est capable de regarder tous les différents atomes qui donnent les propriétés à la matière qui est à la nature qui nous circonde et détermine les propriétés de cette matière.
Donc c'est un outil avec des possibilités, on va dire, beaucoup plus appliquées en tout cas que le LHC par exemple, où là on est dans la vraie physique fondamentale.
Oui, j'ai sûrement les domaines d'application, c'est fortement lié à notre connaissance des matériaux, mmh. notre connaissance des processus qui déterminent la vie et l'interaction entre les différentes protéines. Mmh. Par contre, même ici à Grenoble, on a de la recherche fondamentale pour trouver de nouveaux matériaux, des matériaux innovants, des matériaux qui nous permettent d'être compatibles avec des ressources qui sont de plus en plus moins dans la nature et aussi d'être capable de gérer tout ça avec une attitude environnementale.
Vous venez de terminer la phase 1 des travaux que vous avez entrepris en 2009 et vous commencez une deuxième phase de travaux. Quel est le but de ce grand programme que vous appelez Upgrade?
Oui, l'ISRF, c'est une organisation comme le CERN gérée par un ensemble de pays, 21 pays, qui ont décidé de travailler ensemble pour partager les risques et les frontières avec plus de challenges qui sont caractéristiques de la recherche ultime. On a démarré en 1990 avec l'ISRF d'aujourd'hui et on était les pionniers à l'époque. Les succès étaient mesurés par le fait qu'aujourd'hui on a environ 30 synchrotrons entre lesquels les synchrotrons Soleil à Saclay. Et depuis quelques années, on est en train de démarrer un nouveau projet qui est parti effectivement vendredi dernier pour la réalisation d'un nouveau anneau de stockage source de synchrotrons avec des caractéristiques ultimes qu'aujourd'hui on ne peut pas trouver ailleurs.
Alors Paul Taforo, vous êtes responsable de ligne, c'est comme ça qu'on le dit, au synchrotron, et paléo-anthropologue. Quelle recherche vous menez? Expliquez-nous pour qu'on comprenne bien concrètement à quoi sert cet instrument.
Alors en fait, moi je suis le responsable d'un des petits laboratoires qu'il y a au synchrotron. Le synchrotron, c'est une très grosse machine, mais il y a plusieurs lignes de lumière. Et celle que je dirige est spécialisée en microtomographie. Pour faire simple, c'est une technique qui est équivalente à un scanner médical, mais qui peut aller à une résolution 1000 fois supérieure, avec une sensibilité 1000 fois supérieure. Donc en gros, on peut dire 1 million de fois plus efficace qu'un scanner médical. Donc ça nous permet de faire énormément de recherches dans beaucoup de domaines qui pour la plupart sont très appliqués. Donc il y a tout ce qui est alliage métallique, biologie, biomédicale. Et dans tous ces domaines de recherche, il y en a un dans lequel moi je fais mes recherches personnelles, qui est la paléo-anthropologie. Et donc, je travaille principalement sur les microstructures dentaires des hominidés.
Voilà, d'accord. Donc, vous avez cet outil qui vous sert à quoi précisément avec les dents qui sont à votre disposition?
Alors, en fait, le gros intérêt, c'est que ça nous permet d'aller voir des détails microscopiques dans les dents de fossiles qui sont pour la plupart uniques au monde, sans avoir à les couper, sans du tout détruire les spécimens. Mm-hmm. Quand on travaille sur ce genre de spécimens, on doit apprendre le maximum d'informations, mais également on doit s'assurer qu'il est préservé pour les générations suivantes.
Et que voit-on dans des dents d'Australopithèque grâce au synchrotron ?
Alors dans les dents, en fait, les dents sont très intéressantes parce qu'elles enregistrent leur propre développement pendant toute la période où elles se forment, c'est-à-dire un petit peu avant la naissance jusqu'à l'âge adulte. Les dents enregistrent à travers des stries de croissance leur propre développement avec une précision de quelques jours. Donc ce qu'on essaie d'obtenir comme information, outre la structure de la dent elle-même, on essaie d'avoir des informations sur le développement dentaire, le timing du développement dentaire pour comprendre l'évolution du développement chez les hominidés.
Paul Taforo, justement, quelles sont les autres disciplines qui utilisent le synchrotron, par exemple? Il y a des chimistes, hein, je crois, qui viennent vous voir, des archéologues?
Alors le synchrotron en général, il est utilisé pour énormément de choses, donc ce serait difficile d'en faire la liste. Comme disait Francesco Sette tout à l'heure, l'un des gros morceaux, c'est ce qu'on appelle la biologie structurale pour l'étude des protéines. Dans le cadre de l'imagerie synchrotron, donc ce dont moi je m'occupe, le plus gros morceau, c'est les sciences des matériaux. Avec par exemple tout ce que vous pouvez imaginer en composite, en alliage métallique, dans certains cas il y a des choses sur la nourriture aussi, mais il y a énormément de choses en biomédical, en biologie pure, c'est-à-dire qu'on peut travailler par exemple sur les fluides dans les plantes et tout ça. Et donc il y a la paléontologie qui a été une sorte d'invité assez inattendu dans les aspects recherche synchrotron. Et en ce moment, je pense qu'il y a aussi l'archéologie qui est vraiment en train de démarrer très fort pour la partie imagerie synchrotron. Jusqu'à maintenant, c'était resté assez confidentiel.
Francesco, c'était le monde de l'art aussi vient faire des recherches chez vous?
Oui, ça c'est une nouvelle communauté scientifique que nous découvrons. On a de plus en plus des collaborations, par exemple avec des musées comme le Louvre, pour regarder des objets d'art, comprendre leur composition, des fois découvrir par exemple derrière une peinture de Van Gogh une autre peinture que l'artiste avait décidé de refaire et laisser cacher. On peut par exemple récemment, et je pense que vous avez même eu une transmission, on était capable de commencer à lire des papyrus d'Herculane, oui, qui étaient complètement brûlés pendant l'explosion du Vésuve en 79 après Christ.
On a reçu l'équipe, oui.
Qui, sans les détruire, on a cette pièce de cendres et avec les rayons X, on est capable de les lire. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Et comme Paul le disait, avec cette source de synchrotron, on est capable de regarder à l'intérieur des objets sans les détruire et en les préservant pour les générations à venir.
Donc on peut venir chez vous avec un Van Gogh et en repartir avec deux, ce qui est quand même extraordinaire. Voilà ce qu'on fait comme miracle, par exemple. Exactement. Au synchrotron. Merci beaucoup Francesco, c'était pour ces explications, et puis également à vous Paul Taforo, à l'occasion donc de ce synchrotron qui fait peau neuve à Grenoble. Merci beaucoup Axel.
Merci Mathieu, merci à tous les deux.
Merci, et en bref, dans le reste de l'actualité, on passe d'un accélérateur de particules à l'autre, puisque le CERN à Genève, justement, entame une nouvelle phase d'expérience après 2 ans de maintenance et quelques mois d'essai. Depuis ce matin, les physiciens peuvent étudier les collisions de protons à une puissance de 13 téraélectronvolts, jusqu'à 1 milliard de collisions se produiront chaque seconde. C'est le double de la puissance atteinte lors de la première phase d'expérience qui avait mené à la découverte du boson de Higgs. Les chimpanzés préfèrent les aliments cuits au terme d'une série d'expériences pour le moins étonnantes. Deux primatologues d'Harvard affirment que les chimpanzés ont des capacités cognitives pour cuire leurs aliments. Après leur avoir présenté un dispositif de cuisson simple, la moitié des chimpanzés s'en servaient pour réchauffer leurs carottes. Certains ont même mis de la nourriture de côté pour la cuire plus tard. Les chercheurs pensent maintenant que cette capacité à réchauffer les aliments aurait été une des motivations pour nos ancêtres à maîtriser le feu. Ils étaient 680 candidats au début de l'aventure et ce soir il n'en restera que 3. La finale nationale de ma thèse Rodez en 180 secondes se tiendra donc à 17h30 à Nancy. Les 27 champions régionaux auront 3 minutes pour vulgariser leur sujet de thèse et conquérir le public. C'est en partenariat avec la Tête au Carré. Et puis Christophe Galfard, qui était venu nous parler il y a 2 semaines du Big Bang, sort aujourd'hui son nouveau livre, L'univers à portée de main. Et pour ceux qui souhaitent le voir en chair et en os, il tiendra une conférence aujourd'hui à 17h chez Colette, 213 rue Saint-Honoré à Paris.